Mathieu Nyango, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes normalien, vous êtes agrégé de philosophie, et je le précise parce qu'il est question, on y reviendra, d'un grand concours dans ce livre que vous avez écrit et dont nous allons parler. Vous avez été dans des cabinets ministériels un certain nombre d'années, après avoir enseigné 3 ans, et puis vous avez un peu laissé tomber tout ça pour essayer d'écrire et pour réussir à écrire et peut-être même vivre de votre plume. Il y a d'abord eu 2 essais marquants et vos essais, c'est très intéressant parce que s'il fallait les résumer, en paraphrasant le marxisme, je dirais que vous êtes pour la collectivisation des moyens de décision. Et ces essais, il y a d'abord eu « La démocratie sans maître » en 2017, puis « Les gilets jaunes dans l'histoire, fin des politiques en 2020 ». Et cette année, en 2021, vous passez à la fiction. C'est le premier roman de Mathieu Nyango qui porte un titre assez malrussien, me semble-t-il. Le titre, c'est donc « La dignité des ombres ». Si je dis malrussien, c'est parce que je pense à ce discours de décembre 1964, transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, on ne disait pas encore panthéonisation, et ça donnait quelque chose comme « Entre ici avec le peuple, né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit ». Et votre titre ressemble un peu à ça, me semble-t-il. Mais votre imaginaire n'est pas malrussien, ce n'est pas les voies du silence, loin de là. Et j'aimerais justement qu'à propos de ce livre, qui est une sorte d'enquête sur des voleurs de feu dans un lieu indéterminé qui s'appelle néanmoins Nimrod, je n'en dirai pas plus, vous en direz peut-être plus. J'aimerais vous questionner sur votre imaginaire romanesque.
Ben, j'ai un imaginaire qui est très visuel, presque hallucinatoire. J'espère que ça se ressent dans le texte. Et depuis l'enfance, je vois des choses, quoi, sans avoir de problème psychique particulier, mais chez moi, l'imaginaire passe vraiment par la vision, par le visuel, et plus spécifiquement encore par l'architecture. J'ai coécrit un livre et édité à compte d'auteur un livre sur l'architecture en croisant la vision d'un architecte, Barthel Biosowski, et puis moi-même, autour de Paris. Et ça passe vraiment, vraiment essentiellement par ça, par le visuel.
C'est curieux parce que si on examine la temporalité de votre roman, on est à la fois dans l'anticipation de la guerre des étoiles et en même temps dans ce moment plein de retenue, de temps suspendu, assez gracchien, type le rivage des Sirtes. Là, c'est pour parler du temps. Le décor et les personnages, c'est assez extraordinaire parce que on est entre la Bible avec une pointe de Nouveau Testament, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Gethsémani.
Gethsémani, oui.
Et donc c'est là où le Christ, pour ceux qui ne sont pas allés au catéchisme, a appris qu'il allait au supplice. Et puis, en plus de la Bible, il y a quelque chose de profondément grec, je dirais presque gréco-romain, puisqu'il y a un Colisée. Et donc, entre cette temporalité, ces lieux, on a un roman incroyable puisque, pour faire une assonance, il y a à la fois des toges et du terrorisme. Et on a l'impression que vous avez voulu essayer de tirer au maximum pour s'éloigner de notre époque et néanmoins mieux en parler. Est-ce que c'est un peu votre démarche ou est-ce que je projette du mécanique sur du vivant ?
C'est très exactement ça. J'ai voulu prendre le maximum de distance sur notre époque, tout en projetant un regard sur elle, avec ce côté un petit peu désespéré, en un sens, c'est que j'ai l'impression qu'on sort jamais de grands schémas socioculturels. Alors vous avez parlé de la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Gethsémani, mais le personnage principal aussi s'appelle Cham. Alors pour l'anecdote, au début, je l'avais appelé Ham, parce que dans la Bible, il porte les deux noms, puis on m'a dit, ça fait jambon, alors faut peut-être ajouter un C devant. Donc, il s'appelle Cham, parce que Ham, en anglais, c'est jambon. Il y a la Bible.
Oui. Question, quand même. Vous prononcez Cham.
Oui.
En hébreu, c'est Ham, et parfois, on prononce Cam. Notamment parce que c'est, il faut le rappeler, c'est le fils de Noé. Mais vous dites Cham, C-H-A-M. qui, en hébreu, veut dire, je crois, brûlant. Hein. Mm. Mais donc, effectivement, il y a ce sham, ce kam, ce ham, qui est l'enquêteur. On n'en dira pas plus, qui enquête sur ce feu qui est volé. Mais je vous laisse reprendre, pardon.
En fait, pourquoi je dis sham, c'est parce que je le prononce à la manière dont lui le prononcerait, parce que je pense qu'il ignore totalement quelle est l'origine de son propre nom. Parce que ce roman, c'est aussi une réflexion sur tout ce qui pèse sur nous, de génération en génération. Sans dévoiler trop l'intrigue, ce qui commence à générer des problèmes dans cette cité, c'est la découverte de la généalogie des uns et des autres, et qui découvre que de génération en génération, finalement, ils font un peu la même chose. Donc c'est aussi ça que j'ai voulu signifier par cet entrecroisement de grandes thématiques culturelles, c'est qu'on est travaillé, conditionné, déterminé aussi en un sens par des générations et des générations toutes les générations qui nous ont succédé, que ce soit culturellement, socialement et aussi dans nos familles. Quand on fait des recherches parfois généalogiques, moi j'ai été amené à en faire quelques-unes parce que mes parents ont des histoires totalement extraordinaires, enfin, notamment ma mère, et ben on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'expliquent aussi dans sa propre vision du monde, dans sa propre construction, dans ses propres joies, dans ses propres tristesses, à partir de cette généalogie à la fois personnelle et civilisationnelle.
Vous en avez peut-être pas assez dit ou un peu trop dit. On peut rappeler que votre père est de Côte d'Ivoire ?
Oui, tout à fait, oui.
Et votre mère ?
Ma mère est française, mais elle est d'origine hongroise et allemande. Et elle est née dans un Lebensborn, donc dans une pouponnière nazie. Mais ça, je l'ai appris il y a peu de temps, je l'ai appris en 2004. Et c'est vrai que c'est quand même un passé incroyable. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la question de la démocratie et la peur du fascisme me travaille tant, et je crois qu'elle est très présente aussi dans ce texte, c'est aussi cette origine-là. Et que dans votre histoire familiale, dans votre enfance, il y a des choses qui passent comme ça, et des préoccupations qui passent, et qui vous travaillent sans que vous le sachiez.
Mais Mathieu Nyongo, vous avez parlé du poids de l'ascendance, mais il y a aussi quand même cet état d'une société que vous décrivez extrêmement hiérarchisée. N'allons pas jusqu'à parler de développement séparé, mais néanmoins, cette hiérarchie est aussi très pesante et il y a, au pire, si j'ose dire, vu du haut de la pyramide, les ghouls, qui sont une espèce d'ennemis flasques et dangereux néanmoins, et puis surtout ces ombres. Pourriez-vous nous dire qui sont les ombres ?
Les ombres, alors, d'abord, les ombres, je les ai rencontrées. En fait, elles existent. C'est une statue, les ombres. C'est une statue de Rodin. Que j'ai vu il y a une vingtaine d'années, quand je préparais l'école normale supérieure, vous l'avez dit, donc du coup je le redis, et j'habitais dans un monastère, dans le très chic 7e arrondissement, et juste à côté du monastère, il y avait...
Le musée Rodin.
Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, les jardins, on pouvait y entrer gratuitement, ça tombe bien, je n'avais pas un sou, donc j'y allais quand même de temps en temps. Et puis j'ai vu cette statue des ombres, ça s'appelle comme ça. C'est un groupe de personnages qui sont au-dessus de la porte de l'enfer de Dante. C'est la grande réalisation de Rodin, c'est l'enfer, cette porte de l'enfer. Et puis il en a fait plein de déclinaisons, et dont cette statue. Alors vraiment, je la recommande, cette statue, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, c'est absolument magnifique. Ce sont trois personnages qui sont en fait identiques, c'est le même personnage, mais disposés de telle manière qu'on a l'impression que c'est trois personnages différents. Et vraiment, je suis resté face à cette statue la première fois que je l'ai vue. J'ai eu vraiment une espèce de choc esthétique. Hein. C'est une réalité, ce choc-là. Enfin, un sentiment complètement indescriptible. Et j'ai voulu en faire quelque chose. Et après, beaucoup plus tard, en 2017, quand j'ai fait la promotion du livre « La démocratie sans maître », je me suis retrouvé à Saint-Dizier, dans une librairie anarchiste qui m'avait invité. Il y avait des gens de Bure et tout ça qui étaient venus discuter, m'écouter. Et j'ai discuté avec une jeune fille qui m'expliquait qu'elle était agent polyvalent dans un établissement scolaire. Et donc, elle m'expliquait qu'elle faisait un peu tout. Elle arrivait le matin et on lui disait, bon, bah, fais ci, fais ça, répare une fenêtre. Bon.
De mon temps, quand vous n'étiez pas né, on appelait ça une dame de service.
C'était ça, c'était une dame de service. Et sa vocation, c'était d'être professeur. Donc, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé absolument terrible, c'est que quand, à la fin de la journée, elle fermait la classe, elle faisait cours devant une classe imaginaire. Bon. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai pensé à la statue. Je me suis dit, mais en fait, c'est une condition qui va se démultiplier dans l'avenir. Je pense qu'avec l'automatisation, aussi un certain équilibre social qui peut être obtenu par des luttes, par des revendications. À mon avis, l'avenir de l'oppression, c'est pas la souffrance explicite infligée par un groupe sur un autre. C'est exactement ce qui arrive à Mes Ombres. C'est en fait des gens qui sont laissés de côté, qui n'ont plus d'existence sociale, qui ne participent plus à la vie collective, qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus le droit de se regarder dans un miroir, qu'on n'a plus le droit de nommer, plus le droit de regarder. Et on leur donne quand même de l'argent, ils peuvent subvenir à leurs besoins, mais ils n'existent plus. Et à mon sens, ces nouvelles catégories, je ne sais pas si je connais pas assez l'histoire sociale pour savoir si elle a jamais existé, mais je suis à peu près convaincu que cette catégorie sociale, elle va augmenter de plus en plus. On va avoir plein de gens qui seront là, ils auront assez pour vivre, on les embêtera pas, mais ils souffriront pas trop, mais ils seront pas heureux.
À la limite, on leur donnera un salaire universel.
Oui, alors c'est une des problématiques du salaire universel, c'est que si le salaire universel, il s'associe pas, par exemple, à un renforcement de l'activité civique ou à du sens qui est mis à disposition des uns et des autres, bah, ça donnera ça, ça donnera les ombres.
Et ce qui est incroyable, c'est comment ça va devenir, on le sent dans votre livre et dans votre propos, majoritaire. C'est-à-dire que le lumpen prolétariat chez Marx était tout de même minoritaire. Et là, c'est une... Et alors, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est ceux qui ont réussi le grand concours?
Alors oui, dans mon monde, donc tout est hiérarchisé, il y a cinq classes. Et puis vous avez les lumineux, alors ce sont ceux qui maîtrisent le feu et qui sont passés à travers ce grand concours qui est une épreuve absolument terrible, qui brûle les chairs, qui détruit physiquement aussi ces gens et qui du coup, sortant de ce mérite qu'ils estiment avoir chèrement payé, dominent totalement de cette société.
Les cinq classes, donc il y a au sommet, vous venez de le dire.
Les lumineux.
Les lumineux, et ensuite.
C'est les porte-lumières, c'est un peu les fonctionnaires, on dirait. Vous avez les chantres, qui sont au même niveau que les porte-lumières, c'est vous, c'est les journalistes, mais c'est aussi les profs, donc c'est une même classe. Et puis, vous avez les luminés, alors c'est un peu là. Si je dois faire un équivalent, j'ai fait toutes ces cartographies, bien sûr, mais c'est un peu la classe moyenne, quoi. Et puis, vous avez les ombres.
Et puis, tout cela est menacé. Par, je parlais de terrorisme et de toges, parce qu'ils portent des toges, par ces ghouls. Est-ce que les ghouls, c'est l'équivalent de la menace terroriste?
Alors, les ghouls, pas vraiment, parce que les ghouls, en fait, c'est des. Je ne vais pas trop les décrire, parce que ça fait. Dans les retours que j'ai eus, il y a des gens, ils m'ont dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est dommage que vous les décriviez. On aurait voulu que ça soit comme dans le premier Alien où on le voit jamais, on le voit une fois, il est totalement en bidon. Mais voilà, bon, donc je l'ai décrit dans une prochaine version, je supprimerai la description. Mais ce sont des monstres, en fait. Ce sont des monstres qui menacent la cité. Je pense que le bon parallèle, c'est l'ensemble des peurs qui sont agitées dans une société et qui permettent de justifier le fait que nous soyons sous contrôle, que...
Les ghouls, c'est les boucs émissaires.
C'est les boucs émissaires.
Qui sont à la fois une création à partir de ce qui existe.
Voilà, elles ont une existence réelle, elles ont aussi une dangerosité réelle, mais on va jouer, exagérer, décontextualiser cette dangerosité, la dérelativiser, l'absolutiser, pour en faire une peur permanente. Et c'est complètement ce dans quoi on vit, en particulier actuellement. On a l'impression que la hiérarchie a besoin des peurs pour se maintenir. Elle le fait d'une manière qui n'est pas forcément consciente, d'ailleurs. Les personnages qui dominent ma cité, il y en a certains qui sont absolument cyniques, ils le savent, qui savent ce qu'ils font, et puis il y en a d'autres pas du tout. Il y en a d'autres qui sont complètement de bonne foi. Et je crois que la peur est quand même un des ressorts principaux de la hiérarchie, enfin, le principal ennemi de la démocratie.
Dans cette cité de Nimrod, Nimrod c'est d'ailleurs le petit-fils de Cam ou de Cham, l'arrière-petit-fils de Noé, mais là c'est le nom de la cité de votre livre. À Nimrod, il se passe des choses absolument incroyables, et notamment on tombe sur une salle de fantasmes. Alors là, on sent que vous vous êtes quand même amusé. La salle de fantasmes, vous pouvez en dire un mot ?
Les salles de fantasmes, c'est des espaces dans lesquels peuvent être reproduits de manière ultra-réaliste n'importe quelle scénographie. Parce qu'en effet, mes personnages, ils ont des toges, il y a des assemblées comme dans le monde gréco-romain, mais en même temps, ils maîtrisent une technologie très avancée, et notamment la numérisation du réel.
Et les escaliers ne sont que roulants. Hein,
Et donc, ces salles de fantasmes, non seulement elles existent, mais elles sont obligatoires. Alors, là, il y a à la fois une nécessité personnelle, c'est de dire qu'une société, pour moi, ne peut fonctionner que si elle ménage des espaces dans lesquels l'agressivité, la frustration peut s'exprimer. Bon, nous, dans notre monde, ça va être quoi ? Ça va être les films, ça va être la consommation sordide de faits divers, je pense que ça en participe, ça va être le théâtre aussi, le théâtre c'est cruel, bon... Imaginez Roméo et Juliette, si à la fin, ils partent heureux, ça ne marche pas du tout. Donc il y a tout un équilibre comme ça de la cruauté dans n'importe quelle société. Et puis j'ai voulu aussi faire une référence à 1984, parce que le début de 1984, ils sont dans une sorte de salle, ils se rencontrent comme ça, les deux principaux personnages, dans une sorte, ce n'est pas une salle de fantasme, mais c'est une salle dans laquelle on leur demande d'insulter le système politique. Comme ça, ils sortent de ça et ils sont contents. Mais j'ai voulu aussi glisser, c'est le troisième élément, une critique d'ailleurs adressée à mon propre travail. C'est-à-dire que je pense qu'un des problèmes de la fiction, c'est que d'un côté, la fiction, elle peut inciter à la transformation radicale ou à la transformation tout court. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des références à la Bible, parce que c'est un grand récit qui a eu des effets dans le réel immenses. Mais d'un autre côté, ça peut aussi vous faire croire que vous avez fait le boulot. Moi, je me suis toujours frappé par ça. C'est quand Ken Loach est applaudi à Cannes, les gens se lèvent avec des robes à 30 000 euros. Quoi. Vous voyez bien le problème, c'est que, en gros, la société se satisfait d'une vision fantasmagorique pour ensuite revenir à une réalité dure.
Mais cette façon de se satisfaire, on la trouve aussi d'un point de vue très politique dans votre roman, avec une sorte de mise en récit ou de roman national qui apparaît de temps en temps, notamment avec les deux révolutions.
Alors, c'est l'éducation des Nimrodiens, elle est beaucoup, donc les Nimrodiens, les personnages de mon livre. Les habitants de Nimrod. Elle est beaucoup basée, en effet, sur l'apprentissage de leur histoire. J'ai voulu m'amuser avec ça parce que le personnage principal, il la connaît pas très bien. Donc c'est aussi ce qui va lui donner un potentiel de transformation. C'est que c'est pas un très bon élève, en fait, en tout cas sur cet aspect de l'éducation. Mais c'est aussi un avertissement vis-à-vis de ceux qui en appellent au roman national, parce que l'histoire, elle doit être critique, elle doit aller interroger, elle doit remettre en cause. Je crois pas que ça soit le principal ciment de notre unité nationale, c'est pas de dire il y a eu Napoléon, et puis on le célèbre, puis on doit tous se mettre à genoux devant ce personnage.
Il y a cela, célébrer l'héroïsme ou le prétendu héroïsme, mais il y a aussi ce qu'on trouvait dans le film de Ken Loach, applaudi, et puis on pense à autre chose, et on dit j'ai donné. Les deux révolutions, c'est un peu ça. Il y a eu des révolutions, on a donné. Il n'y a plus besoin de transformation. Et vous faites une espèce de tension avec des conseils de cohabitation, des assemblées de quartier, et vous montrez, me semble-t-il, ce qui faisait aussi le prix de vos essais, la tension qu'il y a entre un pouvoir qui pense qu'il n'a plus rien à... il n'a aucun compte à rendre, puisque il est l'accomplissement de ce qu'il doit être, et puis la démocratie directe, enfin, qui n'a finalement pas droit de cité. Puisqu'elle est en grande partie illusoire. Et je le retrouve dans votre roman, ça.
Le roman se veut la version romancée, fictive, des essais que vous avez cités tout à l'heure, des deux précédents. C'est sûr qu'il y a cette tension-là. Moi, je suis vraiment frappé par un rite comme le 14 juillet, par exemple, en France. C'est quand même incroyable que le président de la République, dans toute la pompe de sa gloire, devant les armées, fête une insurrection populaire, quand même. Enfin, quand on se représente ça.
Dont il serait la première victime.
Dont il serait la première
si
victime.
Si ce qu'il célèbre surgissait à nouveau.
Bah bien sûr, c'est quand même incroyable. Et ce que j'ai trouvé vraiment piquant, c'est quand il y avait le débat sur la question de savoir ce qu'il fallait faire du 14 juillet 89, et qu'on voyait la présidence de la République dire mais non, mais c'est très important qu'on le célèbre. Enfin, je pense que tout le monde sait maintenant que l'essai que j'avais fait en 2017, il est presque plus valable parce que
la démocratie sans maître.
La démocratie sans maître. Il est presque plus valable parce que je pense que maintenant tout le monde sait qu'on est dans une forme de monarchie, alors certes élective, mais toutes les monarchies sont en un sens aussi électives. Enfin, la monarchie française, elle est héréditaire à partir du XIIIe siècle, enfin officiellement en tout cas. Donc s'il n'y a pas de contradiction dans les termes, enfin entre les deux, l'Arabie Saoudite est une monarchie élective, donc il n'y a pas de contradiction dans les termes. Simplement, on est tous électeurs, ce qui est un acquis qui est très important, c'est très bien, mais c'est absolument pas suffisant. Ça peut pas être le dernier mot de la démocratie. Et là, on joue sur les mots. On dit qu'il faut défendre la démocratie, mais on ne parle pas de la même chose. Moi, je pense qu'il faut l'approfondir. Et maintenir, évidemment, garder le peu qu'on a, et puis approfondir, pousser plus loin.
Néanmoins, on voit une autre tension. C'est comment, dans une assemblée, peut naître de la démagogie, n'appelons pas ça du populisme, et une forme de racisme, avec toujours ce besoin de bouc émissaire. Et donc, là aussi, il y a tension. Et certes, il faut enfin une démocratie directe, mais il faut que cette démocratie directe soit presque hugolienne.
Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la transformation institutionnelle, même la pratique des institutions, parce que mes personnages, les Nimrodiens, dès l'enfance, ils apprennent à participer directement à la vie collective, ça ne suffit pas. Les préjugés, ils ont d'autres sources que la simple pratique institutionnelle. J'ai voulu avoir aussi un regard immédiatement critique, c'est-à-dire réaliste, sur mes propres aspirations. C'est pas parce qu'on va transformer les institutions et puis qu'on va apprendre aux gens à décider en commun qu'il y aura pas de, il y aura plus de racisme, il y aura plus de terrorisme, de machisme, de tous ces mots qui sont, je ne sais pas, co-naturels à l'homme, mais qui ont des sources bien plus profondes qu'un simple jeu institutionnel.
Mais vos aspirations ne vous empêchent pas d'avoir un regard critique, à moins que ce soit vos aspirations, je serais étonné de l'entendre. Par exemple, la rotation des progénitures ou le procès des parents. comment vous êtes amusé avec ces deux scènes?
Alors c'est drôle dans la réception du texte, c'est que vraiment ça a beaucoup choqué que j'évoque ce principe de rotation des progénitures. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que des enfants entre 11 et 13 ans, ils sont confiés à une autre famille. Cette famille, alors j'ai expliqué tout le mécanisme, mais c'est une famille qui est tirée au sort. On associe un score à chaque famille en fonction de divers critères. Et donc, vous tombez dans une famille qui est très différente de la vôtre. Et puis, vous restez dans cette famille pendant 2 ans. Vous n'avez plus le droit d'avoir de contact avec votre famille d'origine. Partez pas en vacances avec eux, vous n'avez pas le droit de les appeler. Si vous les croisez dans la rue, vous êtes interdit d'avoir une interaction avec eux. Puis après, vous retournez dans votre propre famille. Alors, c'était une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que je pense qu'une société, elle ne peut pas fonctionner si on ne se connaît plus. On se parle plus. Moi, je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles il y a une ambiance terrible aujourd'hui en France, c'est qu'on se parle plus. Il y a plus d'espace où on débat réellement. Quand quelqu'un dit quelque chose de quelqu'un d'autre qu'il n'est pas d'accord, il porte plainte. Enfin, on se parle de plus en plus par avocat et avocate interposée. Et à mon avis, le contexte pandémique a catalysé ça. C'est que vraiment, les gens ne se connaissent plus et que du coup, ils créent de la paranoïa. Moi, qui suis passé par plein de mondes différents. Dans ma carrière, c'est intéressant de voir comment des préjugés se construisent de tous côtés.
Alors la solution serait ce brassage obligatoire.
Alors là, je le pose d'une manière extrême, mais j'essaye aussi d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous feriez en sorte que y ait pas des familles qui soient trop en souffrance, parce que vous voudriez pas que votre enfant pendant 2 ans il se retrouve auprès de n'importe qui. Cet enfant-là, ensuite, quand il reviendrait, il aurait sans doute une vision qui serait différente de la famille dans laquelle il serait allé. Je pense que ça serait intéressant. C'est ce qui se passe aussi de manière plus moins ambitieux, c'est quand il y a des échanges. Moi, quand j'étais petit, j'étais scout. Enfin, je suis plus catholique et chrétien, mais j'étais scout. Je faisais partie d'une chorale et le dimanche, on allait chanter et on allait déjeuner chez l'habitant. Et à chaque fois, chaque dimanche, c'était des familles différentes. Enfin, je pense que ça, à titre personnel, ça a quand même beaucoup ouvert l'esprit parce qu'il y avait vraiment des milieux très différents. Et bien après, j'ai compris un certain nombre de choses dans le mode de fonctionnement de ces différentes familles. Et ça, je trouve vraiment dommage qu'il puisse y avoir des gens comme, quand vous regardez le parcours d'Emmanuel Macron, par exemple. Je lis son livre, j'ai lu son livre et j'ai étudié son livre Révolution. C'est quand même intéressant. Il y a quand même une source directe et puis c'est lui qui dit. Il a zéro contact, mais aucun contact avec des gens des quartiers, des banlieues et des campagnes. Aucun. Qui sont les gens dont on devrait avoir la plus forte connaissance. Je donne juste une anecdote. Ça a vraiment construit sa vision du monde. Moi, je lis son texte et à chaque fois, dans son texte, il est tourné vers le plus haut gradé. Dans tous les espaces où il va, c'est très intéressant. Mécaniquement, il est toujours intéressé par le plus haut gradé, mais il est construit comme ça. Et à un moment, il va à l'ambassade du Nigeria. Il fait un stage de l'ENA à l'ambassade du Nigeria. Moi, je suis allé au Nigeria. C'était un pays vraiment fascinant, incroyable, par certains côtés terrifiants. Enfin, en tout cas, forcément, vous devez réagir. Eh ben, c'est traité en deux lignes. C'est l'ambassadeur était quelqu'un de formidable. Voilà, point. Vous voyez ? Donc, on peut construire des individualités pareilles, qui ne restent que dans leur tout petit univers et qui deviennent président de la République. Bon, il faut casser ça. C'est pas tenable. Et là, ça, c'est un défi social.
On va terminer là, sur cette question. Il y en a beaucoup d'autres, notamment dans votre roman, la colonie et le fait colonial est omniprésent, mais simplement par des mentions, comme si de rien n'était, mais tout y est. Un détail, votre héros, Cham, a les cheveux crépus, page 29, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Bon. Et je vous avais reçu à France Culture en 2014, il y a maintenant 7 ans, et vous m'aviez parlé, et ça avait été extrêmement, pour moi, marquant, de votre condition de métis. Vous êtes perçu comme un blanc en Afrique, comme un noir en France. Et c'était d'ailleurs Obama qui était encore président des États-Unis d'Amérique. Hein. Trump n'est arrivé que plus tard. Et je me demandais si on pouvait retrouver cette façon d'avoir des signes qui ne sont jamais reconnus pour ce qu'ils sont, ça dépend où on est, chez votre héros, enfin, ce petit caillou des cheveux crépus, page 29, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ce que j'ai voulu dire, c'est que il me semble qu'à Nimrod, ils ont dépassé ça, quand même. Il y a cette description-là, il y en a d'autres. Alors, je laisse aux lectrices et lecteurs voir comment s'organisent les choses racialement, entre guillemets. Mais ce n'est pas la même distribution que dans notre univers à nous. C'est-à-dire que lui, il a les cheveux crépus, mais ça ne va pas jouer un rôle décisif dans son destin et dans le destin des uns et des autres. La couleur de peau est distribuée d'une certaine manière, mais qui n'est pas immédiatement caractérisante. Alors qu'elle le demeure aujourd'hui. Alors on s'est parlé il y a 7 ans. Vous m'aviez demandé si je me sentais noir. Ben je me sens de plus en plus noir. Enfin aujourd'hui, je m'en plains pas. C'est comme ça. Mais on est de plus en plus obligé de se déterminer et de se positionner par rapport à ce qui se passe de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, Nimrod, c'est une touche d'espoir, parce qu'ils ont dépassé ces clivages malheureux.
Mais cette touche d'espoir, on la trouve chez mes enfants, par exemple. Moi, c'est comme si c'était générationnel. C'est pas un hasard. Je vous dis, page 29, j'ai vu qu'il avait les cheveux crépus. Quelqu'un de 14, 15, 20 ans ne le lirait pas comme ça, j'ai l'impression. Ça ne mène pas au questionnement identitaire. C'est un détail parmi d'autres.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment critique parce qu'on est dans un moment où ces questions, et là, c'est mon espérance, vraiment, alors peut-être que je suis naïf, mais ces questions sont en passe d'être dépassées. Il y a vraiment une illustration de ça, c'est J'ai plus la télé parce que je la regarde trop. Donc je me suis moi-même, on sait moi-même.
Privé de télé.
Je me suis privé de télé. Mais quand je vais chez ma mère, je la regarde. Et la dernière fois, je regardais les pages de pub et il y a beaucoup de gens qui sont en fait de plein de couleurs. C'était spectaculaire en quelques temps. Cette question a été dépassée. Alors, ce n'est pas parce que les publicitaires sont des gens gentils, c'est parce qu'il y a un marché. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui, socialement, ont progressé. Mais alors que je me souviens, quand j'étais adolescent, une fois avec mon frère, on s'était amusé à compter le nombre de gens qui étaient issus de l'immigration dans les pages de pub. C'était très peu. Là, aujourd'hui, ça représente presque la proportion de la société. Mais c'est le moment périlleux, justement. Quelqu'un me disait ça, mais regarde, il y a des ministres, tout ça, ça va. Je disais, mais Léon Blum, il était Premier ministre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il était Premier ministre. Dreyfus était le premier officier d'état-major juif, et il y a l'affaire. Donc, c'est justement au moment où des populations accèdent à des responsabilités que ça devient un petit peu périlleux, un petit peu dangereux. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on peut devenir une cible. Ben on peut devenir une cible, on l'est déjà. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Donc, mais il n'y a pas que ces populations-là qui souffrent. Hein. C'est aussi ça que je veux dire dans mon texte, c'est que du point de vue de la transmission générationnelle dont j'ai parlé, moi, l'expérience que j'ai faite aussi quand j'étais notamment prof au lycée en Moselle, dans le bassin houillé, là, c'était beaucoup de gens blancs. Et il y en a certains qui se transmettaient le fardeau de la souffrance, de la misère. Donc, moi, je comprends qu'aussi, dans ces bassins, des bassins-là, il y a une forte colère qu'il faut entendre aussi. Enfin, c'est pas, faut pas monter une population, les populations les unes contre les autres. Il y a un vrai déficit dans les deux cas. Enfin, donc, une des réponses, c'est quand même la démocratie, c'est quand même transformer ça.
Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle le titre, Mathieu Nuango, de votre livre, La dignité des ombres. Merci.
Merci.